Chanter, parce que nous venons de chanter que dans ta parole nous trouvons ce sublime trésor qui est plus précieux que l'or. Alors que cela soit encore le cas aujourd'hui, que tu nous parles, que nous comprenions à quel point ce que toi tu dis nous mène à la vie éternelle. Et donc effectivement, Seigneur, nous te demandons d'œuvrer par ton esprit pour révéler le Christ, que tu nous parles, que tu nous nourris, et cela par ta voix, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors avant, veuillez, prenez place. Avant de démarrer, j'ai déjà eu un enfant qui m'a corrigé ce matin et qui m'a dit, Steve, tu n'as pas mentionné qu'il est la fête des mères. Et je ne lui ai pas répondu, la fête des mères, ce n'est pas une fête chrétienne, parce que quand même, c'est une responsabilité pour nous, les enfants, d'honorer nos parents et surtout aujourd'hui donc honorer nos mères. Et donc ma mère n'est pas là, donc c'est pas à moi de dire quoi que ce soit. Et d'ailleurs c'est pas la fête des mères en Angleterre et je joue avec ça pour jamais dire quoi que ce soit à ma mère parce que j'oublie la fête des mères en Angleterre. Et donc vous n'avez pas cette même excuse et donc profitez et invitez votre maman à l'avenue de Téhéran pour le fameux hamburger. Ça va? Très bien. Alors bravo à vous les mères, que vous soyez fortifiés dans vos responsabilités au sein de la famille. Le jugement de Paris, un concours de dégustation à l'aveugle de vins français et californiens, organisé en 1976 à Paris. Vous l'avez entendu parler de ça? C'était l'un des moments les plus controversés de toute l'histoire moderne de la viticulture. Un marchand de vin souhaitait promouvoir les vins du Nouveau Monde auprès des Français, qui se montraient, eux, très réticents à acheter ces vins. Il a invité 9 experts en vin français pour la dégustation. Entre autres, le directeur de l'Institut œnologique de France, le directeur de l'Académie de vin, des repères du vin français, il y en avait. En vin blanc, horreur, un chardonnay californien arrive en tête, avec 2 autres vins californiens dans le top 5. Vient ensuite le tour des vins rouges, le domaine de fierté de la France. Et l'impensable se produit. Car le vin élu numéro 1 provient d'un vignoble californien qui n'avait été planté qu'en 1970. Cela a eu un impact révolutionnaire sur la production et le prestige et le prix des vins du Nouveau Monde, et joué un rôle par la suite pour redynamiser la viticulture française qui voulait encore la première place. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire? En dehors de la joie pour un Anglais de prendre le dessus sur des Français, comme eux ils nous battent pour le moment dans le monde du rugby, c'est une petite récompense, bien que cela ait eu lieu il y a presque 50 ans. Tant pis. Pourquoi? Car cela va à l'encontre de ce qu'on imagine. Cela renverse l'une de nos valeurs sûres. Les Français, le bon vin. Ici, nous avons affaire à une lettre. Alors, si vous avez Jérémie 29 ouvert sous les yeux, c'est le moment de réallumer peut-être votre GSM ou trouver Jérémie 29 de nouveau dans votre Bible. Ça va vous aider parce que nous avons affaire, comme dit le verset 1, à une lettre de la part du prophète Jérémie à l'équivalent de la crème des crèmes de la viticulture française de son époque. Verset 1, voici les termes de la lettre que Jérémie, le prophète, envoyait de Jérusalem. Mais il envoyait ça à qui? Au reste des anciens qui avaient été exilés, aux prêtres, aux prophètes, à tout le peuple que Nabucodonosor avait exilé de Jérusalem à Babylone. Donc oui, nous sommes en 597 avant Jésus-Christ. Nabucodonosor, roi des Babyloniens, il vient d'exiler plus de 3 000 notables de Juda. Et le verset 2 en mentionne certaines de ces personnes-là. Le roi Jéconia, ou à savoir Jehoiakim, qui est, lui, le fils de Jehoiakim. Je sais, c'est difficile toujours de rappeler tous ces différents noms. Il y avait la grande dame, c'est-à-dire la reine, les hauts fonctionnaires, les princes de Juda, de Jérusalem, les charpentiers, les serruriers furent sortis de Jérusalem. Le prophète Ézéchiel, on le sait de sa prophétie à lui, faisait partie aussi de cette déportation à ce moment-là. Alors la lettre de la part de Jérémie, qui lui reste à Jérusalem, nous dit, le verset 3, « Et envoyez pas la valise diplomatique, car Sédécias, le roi que Nabuchodonosor a installé à Jérusalem à la place de Jehoiakim, Sédécias, c'était son oncle, communiquez-lui avec les exilés de par son ambassadeur Eliezer. » Et nous notons donc toujours, en passant, que bien qu'il soit ignoré par beaucoup de personnes, Jérémie avait quand même l'oreille de certaines personnes importantes en Juda. Et donc, Jérémie communique directement au peuple de Dieu qui se trouve, pas à Jérusalem, mais en exil. Et ce que lui, il dit, renverse le présupposé. Déjà la semaine dernière, au chapitre 24, que nous avons vu avec Jonathan, nous avons contemplé les bonnes et les mauvaises figues. Peut-être vous vous souvenez de cela. Ce n'est pas ceux qui restent à Jérusalem qui connaîtront la bénédiction du Seigneur, comme si la proximité au temple, une présence physique dans la terre promise, est le garant de la présence de Dieu dans leur vie. Non. Non, les bonnes figues se trouvent en exil. Et pourvu qu'ils se tournent vers le Seigneur, Dieu allait faire une œuvre nouvelle dans leur cœur. C'est ça ce qu'on a vu dans le chapitre 24. Alors, d'où vient le titre pour nous ce matin? Dans le livret, vous voyez le petit plan que je vous propose. Lorsqu'on est loin de chez soi. Lorsqu'on est loin de chez soi. Car Dieu a un message pour son peuple en exil. La parole, bien qu'il soit loin physiquement de la terre promise, verset 4, voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, à tous les exilés. Et il rappelle à ces exilés qu'il n'a pas lâché ce peuple lorsqu'il ajoute, toujours le même verset, « ceux que j'ai exilés de Jérusalem à Babylone ». Donc derrière même l'ambition et l'orgueil d'un homme tel que le roi de Babylone, Nabuchodonosor, il y a dans la pensée de Dieu et donc de Jérémie son prophète, il y a le Seigneur Dieu lui-même. Alors, à la fin de cette prédication, ça va avoir lieu à peu près à 4 heures cet après-midi, les amis, nous allons chanter un nouveau chant, un nouveau chant d'écriture qui vient de sortir, « Tu accomplis les bons desseins ». Donc, vous pouvez voir ça dans le livret ici. La deuxième strophe de ce chant évoque cette vérité que nous venons d'entendre. Que dit cette deuxième strophe? Je le lis, on va le chanter plus tard. « Tout tient les princes et les empires, le sort du pauvre et du martyr. Le cœur de tout ce qui respire est un ruisseau entre tes mains. Même les bras du méchant qui s'obstine te servira. Ta volonté l'incline et ton œuvre insondable se dessine. Tu accomplis tes bons desseins. » Le peuple en exil n'est pas abandonné par Dieu. Non, Dieu, derrière la scène, est à l'œuvre. Et Dieu s'adresse à ce peuple. Il a un plan pour ce peuple, de bons desseins pour ce peuple. Alors, à ce moment, je pense que c'est utile que nous disions quelque chose à propos de l'Église. Contraste avec le peuple de Juda en exil. Car l'Église de Jésus-Christ n'a pas, nous ne possédons pas de parcelle de terre qui nous est réservée exclusivement, comme c'était le cas pour Israël, pour Juda. Donc, être ici à Bruxelles n'est pas un exil pour nous, j'imagine pour la plupart d'entre nous. Non, nous faisons partie d'un peuple qui adore Dieu, comme Jésus le dit lui-même dans le chapitre 4 de l'évangile de Jean à la femme samaritaine. Nous adorons Dieu comment ? En esprit et en vérité. L'heure vient, Jésus avait dit à cette femme, où ce ne sera ni sur cette montagne, en Samarie, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père, comment ? En esprit et en vérité. En effet, ce sont là, disait Jésus, les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc le temple, le lieu de rencontre en Israël entre l'homme et Dieu, se révèle être, selon cette pensée de Jésus, rien qu'une ombre qui préfigurait une réalité plus grande, à savoir Jésus-Christ lui-même. Car c'est lui qui permet l'accès au Père, qui révèle la vérité à propos de Dieu, peu importe là où nous nous trouvons dans ce monde. Et dès lors, accès à Dieu, Dieu qui est esprit, ne dépend pas d'une proximité physique de Jérusalem, ni, disons-le clairement pour notre époque, une structure religieuse quelconque, un bâtiment, une basilique, une cathédrale ou autre. Non, nous venons aujourd'hui à Dieu par la foi. Et ainsi nous devenons enfants de Dieu, membres de son peuple, de sa famille. Nous lui appartenant, car oui, par la foi en lui, nous avons connu la mort et notre vie dès lors est cachée avec Christ en Dieu, nous dit le Nouveau Testament. Quand Christ, notre vie apparaîtra, alors nous apparaîtrons avec lui dans la gloire. Et donc, il y a un sens par lequel, aujourd'hui, tout chrétien se trouve quand même en exil. Parce que nous attendons toujours notre patrie, ce que nous appelons notre patrie céleste. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 13, dit que nos prédécesseurs dans la foi étaient étrangers et voyageurs, à savoir donc exilés sur la terre. Et comme eux, nous aussi nous sommes exilés et nous devons aussi courir avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Donc nous allons maintenant aborder nos trois points que nous trouvons sur le livret sous ce thème d'être loin de chez soi. Et nous allons nous concentrer ce matin surtout sur le premier point, parce que les deux autres points sont abordés plus longuement à différents moments dans le livre. Donc d'abord l'approche à adopter. Et ne vous inquiétez pas, c'est là où on va prendre le plus de notre temps. Quelle est l'approche à adopter lorsque nous sommes loin de chez soi, d'un point de vue chrétien, mais d'abord d'un point de vue de ceux qui se trouvaient en exil en Juda. Et cela vient en deux volets, si vous voulez. D'abord le verset 5. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en le fruit. Mariez-vous et engendrez des fils et des filles. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Multipliez-vous là où vous êtes et ne diminuez pas. Donc le message n'est pas, contrairement à ce qu'ils auraient espéré, que l'exil allait être de courte durée. Donc il fallait rester tout à fait séparé des Babyloniens, prêts à tout moment de partir, car ils n'appartenaient pas à cette ville de Babylone, la vraie demeure se trouvait à Jérusalem. Non, verset 10 de ce texte, Jérémie annonce que l'exil durera 70 ans, 70 ans. Il n'y a pas encore une traduction wallonne de la Bible. Et donc, ils doivent s'adapter à cette réalité. Vous allez passer du temps là-bas. Il y aura donc le temps de bâtir des maisons. Bonne nouvelle pour les exilés belges, bien entendu, nés avec une brique dans le ventre. Planter des jardins, les étapes de la vie quotidienne, le mariage, la naissance des enfants, devaient eux aussi avoir lieu pour le peuple de Juda, tout comme pour les Babyloniens. Vous voyez, au lieu d'être en opposition avec des Babyloniens à tout point de vue, avec leur patrie terrestre, ils devaient en fait s'intégrer dans cette patrie terrestre. Et donc voici le deuxième volet de ce qu'il leur dit, verset 7. « Recherchez la paix de la ville où je vous ai exilé et intercédé pour elle auprès du Seigneur, car votre paix dépendra de la sienne. » Oui, car Babylone sera la demeure pendant tout un temps. Voici donc un portrait qui n'est pas simplement négatif à propos de Babylone. Bien que de mauvaises choses y avaient lieu, bien que leur appartenance ultime n'y était pas. Et cela doit encore nous parler, chrétiens, donc exilés dans le sens que j'ai déjà évoqué, à Bruxelles, ou dans les environs, si on n'habite pas à Bruxelles même, aujourd'hui en 2026. Notre relation avec ce monde terrestre ne devrait pas être négative à tous égards. Oui, je cite 1 Pierre chapitre 2, verset 11, « En tant que résident temporaire et étranger sur la terre, nous devons nous abstenir des désirs de votre chair qui font la guerre à l'âme. » Donc à savoir la tentation des idoles, il y en a encore et nous devons faire attention à cela. De penser par exemple que l'avarice est avantageux pour l'homme, pour moi, que l'égoïsme assurera mon avenir à tout point de vue, que l'amertume palliera les désirs que j'ai de vengeance, que le laisser-aller de tous mes désirs sexuels, le chemin vers l'épanouissement humain. Non, nous devons encore nous abstenir des désirs de notre chair. Mais cela ne signifie pas que tout contact avec la société belge doit être évité pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Non, loin de là, car la vie de tous les jours continue. Et si le Seigneur ne revient pas encore lors de notre génération, alors nous aurons toute une vie ici, dans ce contexte. Et c'est normal que nous nous intégrons comme un citoyen tout à fait ordinaire, de consacrer du temps à l'immobilier à un moment donné, au jardinage, au mariage, à nos responsabilités en tant que parents. De telles activités font partie de notre quotidien. Oui, c'est vrai qu'avant d'être belge ou bruxellois, je suis membre du peuple de Dieu. Et le royaume de Dieu doit avoir ma loyauté ultime. Mais cela ne signifie pas que je ne dois pas exercer d'autres responsabilités ici-bas. Nous devons faire attention de croire qu'une vie consacrée à Dieu, vraiment consacrée à Dieu, se débarrasse de toute autre distraction. Cela est une impression erronée de la vraie spiritualité, comme si les vrais spirituels prennent tout leur temps à l'église, à prier ou à méditer la parole ou à chanter les cantiques chrétiens. Ça ne marche pas comme ça, la vraie spiritualité. Nous pouvons légitimement, dans la grâce commune de Dieu, écouter de la musique non chrétienne, apprécier la littérature non chrétienne, manger un repas convivial avec des amis, se jouer, oui, des relations intimes, etc., sans ressenti de culpabilité, parce que je ne mets pas en priorité le royaume de Dieu. Car une partie de notre vie est et doit être bien consacrée à de telles choses. C'est normal et c'est important que nous comprenions cela. Pour nous aider, j'aimerais juste toucher un mot ici à ceux et celles parmi nous qui investissent beaucoup de leur temps pour le Seigneur, même pour notre Église locale. Je pense que le danger pour de telles personnes, je connais ça peut-être moi de par mon métier aussi, je pense que ça peut aller dans deux sens. Soit nous devenons très critiques à tout moment des autres, soit nous ressentons fort nous-mêmes la solitude. Prenons un exemple de la personne bien investie, même peut-être ce matin ici, pour aider à l'Église. Une telle personne voit le dimanche comme étant le point culminant de la semaine. Cette personne a été investie dans les préparatifs pour que le culte ait lieu, peut-être pour que différentes activités de l'Église ont lieu, l'installation ici, la fête sur l'avenue de Téveren, l'accueil de ceux qui arrivent, le suivi de différentes personnes. Peut-être une telle personne est impliquée dans le déroulement de notre culte, que ce soit la musique, que ce soit une agape, sonorisation, peu importe. Souvent, de telles personnes sont les derniers à partir. Et lorsqu'une telle personne rentre chez elle, le premier danger est donc celui-ci. C'est d'être critique dans notre esprit par rapport aux autres. Il y avait trop peu qui m'ont aidé. Il y avait trop peu qui sont restés comme moi je suis resté. Comme si toute l'œuvre de Dieu tournait autour de l'activité dans laquelle moi je suis engagé. C'est le premier danger. Deuxième danger, en rentrant chez soi, c'est de ressentir tout d'un coup la solitude. Quand, bien qu'à l'Église, nous sommes tous ensemble, nous avons une belle fraternité, il y a un bel accueil, c'est chaleureux, on prend de la joie à être ensemble, le soir, à la fin de la journée, je me retrouve seul, pas forcément seul dans le sens célibataire, mais seul dans le sens que j'ai eu beaucoup de plaisir d'être avec d'autres frères et sœurs en train d'œuvrer pour le royaume de Dieu. Et maintenant, je me retrouve à la maison en train de devoir faire de repassage, en train de devoir faire à manger, en train de devoir accomplir des tâches quotidiennes. Et c'est un peu déprimant lorsque je dois m'y consacrer. Alors, si pour des personnes pas suffisamment investies dans la vie d'Église, et il y en a des amis, il faut les encourager pour l'œuvre de Dieu, bien entendu, pour d'autres, peut-être pour vous ce matin, il faut aussi veiller de ne pas faire de notre travail pour le Seigneur une idole. Car d'autres responsabilités, il y en a dans la vie. On sert le Seigneur également en exerçant ses responsabilités au travail, dans la famille, dans la société. Et l'une d'elles, le verset 7, c'est quoi? C'est de rechercher la paix de la ville, d'intercéder pour elle auprès du Seigneur. Je pense que ce verset nous exhorte à mener une vie de citoyen responsable, qui contribue au bien de notre société. Une telle personne cherche à travailler simplement, à contribuer de par ses impôts en premier temps, au bien-être commun de la société, au lieu juste de bénéficier de ce que les autres peuvent me donner. Une telle personne respecte les consignes de sécurité et de santé s'il est chef d'entreprise, car il est soucieux pour la bonne réputation de sa société et aussi pour sa contribution pour la réputation de la ville qu'on veut encore investir ici à Bruxelles. Il veut qu'il y ait de l'investissement financier qui contribue au bien de tous les citoyens. Une telle personne ne se comporte pas avec agressivité envers des fonctionnaires. Une telle personne ne parle pas de manière raciste auprès des autres. Une telle personne n'a pas d'attitude dédaigneuse à propos de ceux qui se trouvent en dessous de son niveau de responsabilité dans la tâche qu'il exerce. Petit exemple, de vendredi soir, j'étais en route en moto avec mon épouse vers Avenue Slegers pour le concert de violon avec Astrid et d'autres. Et on était derrière une voiture blanche qui était super agressive à propos de la voiture devant elle. Et elle l'avait dépassée et ensuite klaxonné de manière agressive et surtout impatiente. Et nous, on était derrière et on suivait encore la voiture blanche et on voyait que la voiture blanche se garait tout près de l'église. Et tous les deux, on s'est dit l'un à l'autre, espérant qu'il ne s'agit pas de l'une des personnes de notre église. Alors, voiture blanche, si c'est vous, vous m'en parlez après. Ce n'était pas une action aimable. Ce n'était pas un bon témoignage. Et ça m'a fait penser au verset suivant de 1 Pierre, chapitre 2. Parce que si au verset 11 du chapitre 2 d'1 Pierre, on parle du fait que nous sommes des résidents temporaires, verset 12 nous dit « Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. » Paul, dans la lettre aux Timothée, il encourage des chrétiens, des églises, des responsables à faire des demandes, des prières, des supplications de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et tout respect. Est-ce que nous sommes conscients de nos responsabilités dans la société, dans la famille, auprès de nos voisins, que nous puissions être consacrés aussi à ces responsabilités-là? Alors voilà, le premier point le plus long vient de terminer, l'approche à adopter. Encore deux, la promesse à retenir. Car si d'un côté, une approche qui ne néglige pas les tâches quotidiennes, qui s'efforce de faire le bien autour de nous est nécessaire, de l'autre côté, il ne faut pas perdre de vue ce que Dieu promet. Et ce que Dieu promet aux exilés à Babylone est clair au verset 10. « Mais ainsi parle le Seigneur, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, j'interviendrai pour vous et je réaliserai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant en ce lieu. » Donc ils retourneront vers la terre promise, promesse de Dieu. Ils connaîtront, les plus jeunes en tout cas, la réalisation de cette promesse. Un retour d'exil. Il a déjà promis au chapitre 25 que cela allait avoir lieu, et Dieu, parce qu'il est Dieu, il réalise ce qu'il promet. Tu accomplis, nous chanterons plus tard, tes bons desseins. Et donc Dieu est digne de leur confiance. Et ce que lui, il fait, ne dépend pas de eux, de leur performance, mais de lui, verset 11, « Je connais, moi, les plans que je prépare à votre intention, déclaration du Seigneur, non pas des plans de malheur, mais des plans de paix, afin de vous donner un avenir et un espoir. » Alors voici l'un des versets, ce verset 11, les plus cités par des chrétiens et hélas, souvent cités hors contexte. J'ai vu ce verset sur des annonces pour des fiançailles d'un couple, ou sur le livret même d'un mariage d'un couple. Je vois ce verset sur Instagram avec un fond d'un cœur par rapport à une pensée positive pour quelqu'un en difficulté. Et l'écho de ce verset, moi je l'entends tout le temps. Lorsque quelqu'un se trouve en difficulté, même dans notre église, pour l'une ou l'autre raison, Dieu me fera sortir de ceci car il veut me bénir. J'en suis certain. Alors, comme toujours, c'est le fait de mélanger le vrai et le faux qui rend ce genre d'enseignement pernicieux. Car Dieu a effectivement un projet de bénir, encore aujourd'hui, de nous bénir, même si nous nous tournons vers lui. Mais il faut comprendre comment cette promesse se réalise. Et dans ce contexte de l'exil, le projet n'était pas un projet de bénédiction dans l'immédiat. Cela allait avoir lieu quand? 70 ans. 70 ans en exil alors. Après cette période, verset 12, alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir, vous me prierez et je vous entendrai. Verset 14, je me laisserai trouver par vous, déclaration du Seigneur. Je rétablirai votre situation, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai banni. Déclaration du Seigneur, je vous ramènerai en ce lieu d'où je vous ai exilé. Donc cette promesse pour eux se réalise lors du retour de l'exil, vers donc un avenir paisible. Daniel, dans le chapitre 9 de Daniel, il mentionne cette promesse. Il a lu cette lettre envoyée par Jérémie. Et en fonction de cette promesse, il prie, lui, au Seigneur par rapport à cette réalisation. Mais lorsque nous, aujourd'hui, nous transposons cette promesse à nous, des chrétiens exilés, comme je vous ai déjà évoqué, cela ne marche pas de prendre cette promesse à la lettre, car nous avons vu que nous, jusqu'à ce que nous retrouvons dans notre patrie céleste, il n'y a pas de retour d'exil. Est-ce que cela signifie que nous devons déduire que nous arriverons, chacun d'entre nous, dans notre patrie céleste 70 ans après que nous avons placé notre foi en Christ, chacun à tour de rôle? Si oui, c'est déjà échoué, bien sûr, car différentes personnes, différents chrétiens meurent à différents moments. Donc comment pouvons-nous, de manière juste, retrouver les promesses de bénédiction pour nous? Alors il y a un indice au verset 13 que nous avons aussi vu ou évoqué la semaine dernière. Verset 13, « Vous me rechercherez, vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. » Alors, Jérémie se projette dans un avenir où il y aura un changement de cœur de la part de son peuple. Et cela anticipe les promesses qui viendront par la suite, dont Jérémie mentionnera au chapitre 31, qu'on verra la semaine prochaine. Les promesses liées à une nouvelle alliance, où Dieu mettra sa loi au-dedans de son peuple. Il l'écrira où? Sur leur cœur. Alors, cette alliance-là se réalise lors de la venue de Jésus-Christ, son œuvre à la croix. Cela permet aux croyants en Christ aujourd'hui de connaître la bénédiction qui découle de la croix, que le peuple de Dieu, même après l'exil en Juda, ne connaissait toujours pas. Quand même après le retour d'exil, le peuple restait sous le joug des puissances étrangères, à savoir la paix définitive avec Dieu, le pardon définitif de nos péchés, la joie de notre salut, l'adoption dans la famille de Dieu, son intervention souveraine pour que nous nous tournions vers lui, le don de son Esprit Saint, Dieu lui-même avec nous et en nous, qui nous témoignage de notre héritage à venir dans le royaume de Dieu. Oui, le chrétien aujourd'hui connaît les bénédictions en Jésus-Christ qui vont au-delà de toute bénédiction matérielle que nous pouvons connaître ici-bas. Et si oui, nous devons aussi courir avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Nous le faisons tout en étant conscients que, comme nos prédécesseurs dans la foi, nous recevons, Hébreux chapitre 12, un royaume inébranlable grâce à Jésus-Christ. Donc oui, il y a une promesse à retenir. Un retour vers Dieu que Dieu lui-même a effectué en Christ. En lui, par son sang, nous sommes rachetés. Cela a déjà eu lieu, mais nous ne jouirons que pleinement de cette bénédiction lorsque nous arrivons dans notre patrie céleste. Alors, conclusion, il ne faut pas citer le verset 11 aujourd'hui pour donner l'impression que nous croyons que Dieu nous aidera à trouver absolument ce que nous désirons dans cette vie, même si ce que nous désirons en soi est une bonne chose. Un travail, alors, si nous sommes au chômage. Un conjoint, si je suis célibataire. La santé, si je suis accablé de maladies. La richesse, si je suis en difficulté financière. Il faut éviter d'attacher le langage de bénédiction, surtout à mes circonstances matérielles. Car pour reprendre le verset 11, le langage du verset 11, « Moi, Steve, je ne connais pas, moi, les plans que Dieu prépare à votre intention. » Dans votre vie, dans vos circonstances personnelles, le malheur, il peut y avoir, vous savez. La maladie, la difficulté, la solitude, la mort. Mais la bénédiction en Christ, nous pouvons la connaître, même lorsque le malheur frappe. Troisième strophe de ce nouveau chant que nous allons bientôt chanter, ça arrivera, ne vous inquiétez pas. Au milieu de la troisième strophe, par l'acte d'homme vil et insoumis, ta main nous donne le salut promis, et de la mort du Fils jaillit la vie. Tu accomplis tes bons desseins. Et ensuite, la quatrième strophe, tu vois mes combats quotidiens et les torrents de mon chagrin. Tous les contours de mon chemin sont tracés par ta bonne main. Dans ma douleur, rappelle ta constance, et que mes pleurs arrosent la semence qui produira le fruit de l'espérance. Tu accomplis tes bons desseins. Donc, en Christ, ces bons desseins de paix ont été réalisés définitivement. C'est là que nous trouvons un avenir et un espoir qui va au-delà de nos circonstances ici-bas. Sans cela, nous serons toujours déçus lorsque la malédiction frappe. Comme si Dieu nous doit ce dont on désire. Et sans cela, il n'a pas respecté sa part du marché. Mais ça ne marche pas comme ça avec Dieu, les amis. Vous devez le savoir. Il faut être lucide là-dessus. Car sinon, lorsque vous tombez dans la difficulté, vous serez surpris et déçu avec Dieu. Quelle erreur! Quelle erreur! Parce que vous pouvez connaître la bénédiction de Dieu, même lorsque vous vivez en difficulté. Donc, il y a, on arrive au troisième point, une approche à adopter et il y a une promesse à retenir. Mais s'il y a une promesse à retenir, il faut donc distinguer des mensonges à éviter. Ici, il y a trop de versets, donc on va vite. Car ce message que Jérémie a porté devait se battre avec d'autres messages mensongers qui circulaient. L'avertissement est là, au verset 8 de notre texte. « Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, ceux qui sont parmi vous, ni par vos devins. Ne prêtez pas attention aux rêves que vous faites. » Car c'est mensongèrement qu'ils vous parlent en prophète en mon nom. Je ne les ai pas envoyés. Déclaration du Seigneur. Cela devient explicite dans la lettre de Jérémie au verset 15. Jérémie sait qu'à Babylone, il y a ceux qui réclament des prophètes sur place avec eux à Babylone. Et le peuple sur place continue à aimer avoir un discours qui les flatte, qui leur dit que le séjour ne sera pas long, qui fait croire que c'est mieux d'être à Jérusalem qu'à Babylone. Mais c'est faux. Jérémie confirme que le désastre attend ceux qui restent à Jérusalem et donc à ceux qui n'ont pas écouté, verset 19, ses paroles. Après avoir, verset 20 et 21, dénoncé ces faux prophètes, Akab, Sédécias, il mentionne Shemaïa au verset 24, qui a essayé de mettre une pression sur le prêtre Sophonie pour que lui, verset 27, il rabroue Jérémie pour le message qu'il avait donné que l'exil sera lent. Mais Sophonie a du respect pour Jérémie et donc lui dévoile ce que Shemaïa lui a écrit. Alors, cela suscite de Jérémie une dernière communication aux exilés. « Fais dire à tous les exilés, verset 31, voici ce que dit le Seigneur au sujet de Shemaïa de Nehelam, parce que Shemaïa vous parle en prophète sans que je l'ai envoyé, et qu'il vous incite à mettre votre confiance dans un mensonge, ainsi parle le Seigneur, je vais faire rendre des comptes à Shemaïa de Nehalam et à ses descendants. Aucun des siens n'habitera au milieu de ce peuple, et il ne verra pas le bien que je ferai à mon peuple. Déclaration du Seigneur, car il a appelé à la subversion contre le Seigneur. Wow, il y a une ironie ici à la fin, n'est-ce pas? Parce qu'ils parlent faussement de la bénédiction, de leur avenir, de leur espérance, du retour à Jérusalem. Mais cela a pour résultat de passer de côté de la vraie bénédiction que Dieu prépare. Et du coup, ils tombent sous le jugement de Dieu. C'est une chose très grave. Nous l'avons déjà vu, de manipuler la parole de Dieu, les promesses de Dieu, de parler avec un ton confiant devant la chair, dans une église encore aujourd'hui, triomphaliste de la part de Dieu, tout en disant des choses que Dieu n'a pas dit. D'après une étude faite en 2023 aux États-Unis, auprès des Américains protestants, les personnes qui fréquentent les églises sont plus enclines aujourd'hui à croire que Dieu veut leur prospérité financière. 76%. Le chiffre serait combien, les amis, parmi nous? Et si nous parlons de notre bien-être plutôt que notre prospérité financière, j'ai l'impression que le chiffre sera encore plus grand. Voici le slogan d'un site web d'une église bruxelloise que beaucoup d'entre nous nous connaissons. Je n'ai pas eu le temps d'étudier cela en détail, donc je ne vais pas vous donner le nom de cette église, mais beaucoup d'entre nous connaissent cette église, moderne, jeune. Et le slogan de cette église dit ceci sur le site. À l'église X, nous croyons que vous pouvez vivre un déblocage dans votre situation difficile et rentrer dans votre appel. Vous êtes prêts? Alors oui, il faut décortiquer le langage là. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est ambigu ce que cette Église nous offre, n'est-ce pas? Si l'accent tombe sur les bénédictions matérielles, temporelles, plutôt que spirituelles en Christ et éternelles dans notre patrie céleste, il est question des serviteurs que Dieu n'a pas envoyé, malgré le nombre de personnes qui y assistent. Et c'est difficile pour nous d'encore accepter cela. Mais c'est Dieu maintenant qui nous parle dans sa parole. Là où nous devons mettre l'accent, c'est en Jésus-Christ et les bénédictions qui sont les nôtres. Alors nous allons nous préparer à chanter, enfin, bravo à vous d'être avec moi, jusque-là, à chanter ce dernier chant. Donc j'invite les musiciens de prendre place pour l'écouter. Nous allons, parce que c'est un nouveau chant, peut-être certains en ont écouté avec le lien qu'on a envoyé vendredi. Nous allons écouter une interprétation juste de la première strophe de la part des musiciens, et ensuite on reprendra la première strophe et on chantera les quatre strophes ensemble. Mais j'aimerais vous... Avant juste de chanter, j'aimerais terminer avec un verset du Nouveau Testament. 2 Timothée chapitre 4, verset 3. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison de mangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, il dit à Timothée, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Que le Seigneur nous encourage pour une semaine à venir, chers amis. Alors, nous écoutons l'après-midi.